Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Ils sont partis 6 mois, 1 an, 2 ans même en mission humanitaire, célibataires ou mariés. De retour d'Asie ou d'Afrique, 4 jeunes témoignent aujourd'hui de la richesse de leur engagement. Ces jeunes-là ont la mission dans le sang et vous allez le découvrir aujourd'hui sur Radio Présence. Autour de ce plateau, je commence par vous, Marine. Marine Oro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes partie avec les missions étrangères de Paris, les MEP, au Cambodge et plus précisément à Phnom Penh pendant 6 mois. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelle était votre mission ?
Donc, j'ai été envoyée dans une école pour enfants autistes atteints du spectre de l'autisme qui accueillait 300 enfants de à peu près 3 ans à 20 ans. Et cette école, elle a été fondée par une paroissienne de l'église catholique de Phnom Penh, qui est gérée par un prêtre MEP sur place. Et donc, j'avais une mission... en fait, je suis psychomotricienne, donc j'avais une mission autour de la santé là-bas. Et j'avais aménagé une petite salle dans l'école où je recevais un petit peu les enfants en individuel, comme ils sont toute l'année par classe. Ça leur faisait du bien d'avoir des petits moments un peu en individuel pour travailler sur certaines choses grâce à mon métier.
Eh bien, bien sûr. Donc là, vous avez fait le lien avec votre métier et cette mission. Hein. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous êtes partie en mission à peine votre diplôme de psychomotricienne en poche, si on peut dire. Quel est l'appel que vous avez reçu qui justifiait un départ imminent ? Parce que vous auriez pu vous dire, j'ai mon diplôme, je vais travailler et puis on verra plus tard.
Oui, en fait, j'ai un petit peu travaillé après mon diplôme. Parce que j'ai toujours eu un petit peu cette envie de partir, mais qui s'était pas très bien concrétisée. Donc j'ai un petit peu travaillé et en travaillant, je me suis vraiment renseignée un peu plus sur les associations et notamment les MEP, où j'ai eu pas mal de témoignages positifs ou négatifs. Et c'est vrai que du coup, c'est cette association que j'ai choisie. Un an après avoir travaillé.
Et justement, un an après avoir travaillé, vous vouliez vivre quoi comme expérience différente ?
Je sentais que j'avais un appel à partir et j'avais envie de mettre à profit un petit peu mes compétences en psychomotricité autre part et en même temps rejoindre une association catholique parce que dans mon école, il y avait des associations qui proposaient de partir en Thaïlande ou à Madagascar, mais seulement sur une durée courte et, enfin, je crois, 1 mois maximum. Et pas du tout avec l'aspect catholique, enfin, l'aspect de la foi. Et donc, c'est vrai que j'avais un peu cette soif de vivre ça au travers de ma religion et découvrir aussi l'Église tout en y mettant mes compétences à profit.
Oui.
Donc c'est pour ça que je choisis ça.
Alors, vous nous direz évidemment après comment ces aspirations ont trouvé une réponse. À vos côtés, Mélissa Ancelier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes partie aussi avec les missions étrangères de Paris, aussi au Cambodge. Vous êtes diplômée de l'école d'ingénieurs de Purpan. Quelle mission l'association vous a confiée ?
Alors moi, j'ai été envoyée à Kompong Chhnang. Donc Kompong Chhnang, c'est une petite ville rurale qui est située au bord du Tonlé Sap. Donc c'est à 2 heures au nord de Phnom Penh. Donc j'ai été envoyée là-bas pour être au service de la paroisse Saint-Pierre de la ville. Et au sein de cette paroisse, il y a un foyer qui accueille des jeunes qui ont entre 13 et 19 ans. Donc 8 filles et 8 garçons. Et en même temps, j'avais une petite mission dans l'école maternelle du centre avec donc des enfants de 3 à 5 ans. Donc j'ai été envoyée dans ce centre pour partager le quotidien de ces enfants Khmer. Leur enseigner l'anglais et puis vivre avec eux pendant 6 mois, faire du soutien et puis aider aussi dans les tâches en fait au sein de la paroisse.
Contrairement à Marine, cette mission n'avait pas de lien avec votre formation.
Pas du tout. Non, c'était j'avais pas forcément envie de mettre à profit mon diplôme. C'était vraiment un engagement total de sans rien apporter forcément, mais
juste vous-même.
Voilà, exactement. Voilà, avec mes petites compétences, l'anglais, bon, c'était pas de base, c'était pas quelque chose. Je suis pas une pépite en anglais. Je suis pas bilingue en anglais, mais voilà, c'était juste d'apporter effectivement mes petites compétences et puis mon aide à ces gens assez jeunes, voilà, qui vivent quand même dans des situations qui peuvent être très compliquées. Voilà, si ces jeunes sont dans ce foyer, c'est qu'en fait, leurs familles ne peuvent pas assurer le quotidien, notamment la possibilité de leur... comment dire, la possibilité d'aller à l'école, notamment. Et voilà, donc
parce que des trajets trop longs ou parce
des trajets trop longs, effectivement. Voilà, parce que c'est quand même des zones très rurales. Ils n'ont pas forcément de moyens de locomotion, juste pas forcément de vélo. Donc en fait, souvent, les jeunes se retrouvent dans l'impossibilité d'aller à l'école. Donc ce centre permettait effectivement en fait de les envoyer à l'école et qu'ils puissent suivre une scolarité de manière normale du coup.
Oui, c'est ça. Voilà. Marine disait que c'était important pour elle d'aller dans une association catholique. Vous qui avez aussi choisi les missions étrangères de Paris, quelle dimension ça donnait à votre mission ?
Alors comme Marine, effectivement, j'avais envie de mettre ma foi au cœur de mon volontariat. Les missions étrangères de Paris, effectivement, c'est une organisation qui envoie des prêtres MEP depuis 1622. Voilà, donc qui connaît vraiment la réalité du terrain en Asie. Voilà, qui connaît la culture et qui offre du coup en fait une très très solide préparation. On a eu une semaine de préparation avec énormément d'enseignements autant culturels sur les religions, une préparation spirituelle. Donc voilà, c'était vraiment aussi une association qui me parlait, dont j'avais eu en fait effectivement de très bons échos par d'autres volontaires, des amis qui étaient partis, qui revenaient vraiment enchantés et heureux de leur mission. Et effectivement, j'avais vraiment à cœur de mettre ma foi dans ce volontariat-là. Voilà, notamment pour...
pour l'éprouver peut-être avec d'autres façons de vivre la foi
à
l'autre bout du monde. Hein.
C'est ça. Ouais.
Oui. Alors nous sommes en ligne avec Éléonore Loyer, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes partie avec votre mari Paul Armand, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Vous êtes partie au tout début de votre mariage au Timor-Oriental avec les enfants du Mékong. Vous étiez les premiers dans cette mission, quel a été précisément votre rôle ?
Alors oui, on a été envoyés en mission au Timor-Oriental. On était basés à Dili, la capitale. Et notre mission, c'était d'ouvrir les actions de l'association au Timor. Donc on a été envoyés avec un cadre, mais beaucoup de liberté. Le but, c'était de créer le réseau. Et donc on a parcouru tout le pays avec notre moto pour essayer d'aller à la rencontre des personnes et de voir quel programme de parrainage on pouvait ouvrir pour Enfants du Mékong.
Alors, on précise que en fait, vous étiez déjà parti. C'était pas votre première mission humanitaire. Hein. Vous étiez parti comme célibataire avant donc votre mariage. Vous êtes parti 2 ans avec Fidesco et vous avez exercé votre métier d'infirmière en Guinée. Qu'est-ce que ça change de partir seul ou à deux ?
Ça change beaucoup de choses. Déjà dans le discernement, on est à deux, on pense tout à deux. Et la vie sur place, Fidesco, c'est beaucoup basé sur le binôme. Donc, en effet, il y a des couples mariés, mais pour les célibataires, on est en binôme avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas choisi. Et là, le fait de partir à deux, c'est vrai que c'est un choix qui est totalement différent. En même temps, il faut aussi s'adapter à pouvoir travailler avec l'autre, ce qui est quand même quelque chose souvent qu'on ne connaît pas. Franchement, c'est une super mission. Nous, on est partis pour aussi passer une première année de mariage béton, comme on appelle ça. Et donc, ça a été vraiment le cas. On a beaucoup apprécié.
Vous dites que c'est plus facile de partir avec quelqu'un qu'on connaît et quelqu'un qu'on a choisi, en l'occurrence votre mari. Est-ce que ça a été une force pour vous ou est-ce qu'il y a eu quand même, puisque c'était le début de votre mariage, est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés dans votre façon d'appréhender la mission ?
Ça a été plus facile, ça a été une force pour nous, oui. Dans l'appréhension de la mission, Paul Armand me l'a redit hier, c'est plus facile d'appréhender, il ne serait pas forcément parti tout seul, lui, ça aurait pas été son truc. Alors que partir à deux, il appréhendait moins, vraiment le but c'était de passer du temps ensemble. C'est vraiment ce qu'on a fait pendant un an où on a travaillé et c'était vraiment précieux et unique comme moment de notre vie.
Alors, on revient autour de ce plateau avec vous, Geoffroy Das. Vous avez été envoyé une première fois auprès des Karen à la frontière de la Thaïlande. Et puis une deuxième fois, une fois que vos études étaient terminées, vous êtes retourné en Thaïlande, mais cette fois au sud, avec les enfants du Mékong. Quelle expérience souhaitiez-vous vivre et qu'une première mission n'avait pas forcément suffi à combler ?
Alors, bonjour à tous. L'expérience que je cherchais là-bas, c'était surtout l'aventure. En fait, quand j'ai rencontré Enfants du Mékong, j'ai tout de suite eu l'impression de tâches très définies sur le terrain, d'un vrai travail sur le terrain, mais tout en ayant une grande liberté dans les actions, dans les choix. C'était un peu à nous de créer notre mission. Et du coup, ce que je cherchais en partant, c'était vraiment de partir à l'aventure, tout en me rendant utile. Et donc, c'est absolument ce que j'ai trouvé là-bas sur ces deux années. Et à la fin de ma première année, en fait, je suis parti juste après le Covid sur la première année. Donc, c'était beaucoup d'actions à remettre en place et beaucoup de zones à réhabiliter pour que le parrainage soit utilisé et soit mis en place de sa meilleure façon. Et donc, à la fin de ma première année, en fait, je connaissais vraiment ma zone, je connaissais vraiment le fonctionnement d'Enfants du Mékong et je sentais qu'il y avait quelque chose à amener encore en plus. Je sentais qu'il y avait de cette expérience-là et de ce que j'avais pu apprendre sur la deuxième année pour aller un peu plus loin. Et donc, j'ai dû rentrer à la fin de ma première année pour finir mon Master 2 en contrôle de gestion. Vraiment quelque chose qui n'a rien à voir. Et je suis du coup reparti directement après sur une deuxième année, cette fois dans le Sud. Et voilà, c'était vraiment du coup pour compléter, pour vraiment aller jusqu'au bout de ce que j'avais envie de donner.
Dans cette soif d'aventure qui vous a guidé pour cette première mission, est-ce que cette soif était la même pour la deuxième mission ?
C'est toujours compliqué de comparer les missions. Ouais. Je pense qu'Eleonore pourra dire la même chose. La première, ça restera toujours la mission du cœur. Parce qu'on est toujours très nostalgique de la première. En tout cas, moi, je le suis. Et donc, non, les deux missions, elles n'avaient pas grand-chose en commun. Parce qu'on part sur quelque chose qui est très différent. Même si je suis resté dans le même pays, j'étais sur la première année chez les Karen, qui est une ethnie qui vit au fond de la jungle. Avec pas souvent internet. Et sur la deuxième année, j'étais dans le sud de la Thaïlande, donc quelque chose de beaucoup plus touristique. Donc les deux choses étaient très différentes.
Les communautés n'ont rien à voir.
Et en fait, à la fin de la première année, je sentais vraiment que c'était pas suffisant, que j'avais besoin d'aller compléter avec une deuxième année. Et donc c'est pour ça. Mais bien à la fin de la deuxième année, je peux vous dire que j'étais aussi content d'entrer en France.
Ouais, donc là c'est fini, pas de troisième mission a priori.
Non, pas pour l'instant.
Parce que vous parlez d'aventure, mais on aurait pu se dire, prenez votre sac à dos et allez au bout du monde, ça suffit.
Ça suffit et je pense que c'est aussi quelque chose qui est super aussi. Mais en fait, Enfants du Mékong, et c'est là où j'aime beaucoup cette association-là, c'est qu'elle nous permet de faire les deux à la fois. Il ne faut pas compter ses heures, faut aimer se lever tôt et aimer faire de la route. Mais c'est ça qui est sympa, c'est de pouvoir à la fois amener aventure, parce qu'en fait, de fait, on est amené à évoluer dans les différents programmes. Alors, c'est ce qu'Eleonore parlait. Les programmes, ça peut être des écoles, des centres, des camps de réfugiés qu'on doit aller visiter. Et dans tout ça, on a la grosse partie gestion du parrainage, gestion des projets, gestion des parrains qui peuvent venir sur le terrain. Et donc tout ça, c'est vraiment allier aventure et à la fois travail, se sentir utile. Parce que je pense que c'est vraiment important parce que sinon, le temps peut être long. Donc voilà, c'est ce que j'ai beaucoup aimé chez Enfants du Mékong.
Donc alors maintenant, vous cherchez un travail, il va falloir allier tout ça. Hein. Aventure et contrôle de gestion, c'est pas forcément très évident.
C'est compliqué.
Mélissande Cellier, vous avez évoqué la question de la formation et de la préparation hein, avant de partir à l'étranger. Je me tourne vers vous, Eleonore Loyer, puisque comme vous êtes partie deux fois, est-ce que dans la formation, la préparation, vous avez reçu des choses différentes, le fait de partir seul, de partir à deux. Qu'est-ce que ça vous a apporté ?
Le discernement avec Fidesco, il était très inscrit dans la foi. Fidesco demande aux volontaires de discerner un appel et d'y répondre. Et eux discernent aussi de leur côté. Et donc, ce qui est vraiment particulier avec cet asso et très chouette, c'est qu'ils forment très bien à ça. nous aider à discerner, nous aider à comprendre les raisons de notre désir de départ. Et avec Enfant du Mékong, c'était un petit peu moins inscrit dans la foi. En effet, on est les volontaires d'Enfants du Mékong sont les yeux et les oreilles de l'association sur le terrain. Donc on fait tous le même travail, contrairement aux missions Fidesco et MEP. Et donc, Enfants du Mékong, on fait tous le même travail et le discernement est plus sur est-ce que cette mission et ces actions correspondent à mes valeurs, correspondent à ce que j'ai envie de vivre. Et le fait de le vivre à deux, pour moi, ça a été vraiment un trésor de partage, d'écoute de l'autre, d'être à l'écoute des désirs de l'autre. Et voilà, bah j'ai vraiment apprécié les deux, qui étaient très différents.
Oui, c'est ça qui était très différent. Et puis, en fait, c'était un peu comme votre préparation au mariage, cette formation avant de partir. Ça vous a permis, comme vous dites, d'encore mieux connaître, apprendre à connaître votre mari.
Tout à fait.
Marie Noro, sur cette question de la préparation, du discernement, qu'est-ce que vous pourriez ajouter?
Au MEP, comme le disait Mélissande, on a une semaine de formation qui est très complète. On a pas mal de topos sur les religions sur place, l'hindouisme, le bouddhisme. Donc c'est vrai que ça nous permet d'en savoir un peu plus avant de partir sur ces thématiques-là. Et il y a aussi toute une formation assez spirituelle. On a pas mal de messes, de temps de louange, d'adoration. Et en fait, c'est aussi des rencontres parce nous, on était une cinquantaine à notre formation à partir en mission. Et le dernier week-end, donc, il y a les autres volontaires qui reviennent de mission. Et la semaine se clôture avec une grande messe avec tout le monde, une messe d'envoi. Et donc là, on reçoit notre croix de mission et on est envoyé et béni par le prêtre des missions étrangères de Paris. Et sous le regard de nos familles qui sont invitées à ce moment-là.
Voilà. Ah oui, ça doit être un moment très émouvant.
Ouais, c'est sûr, c'est toujours très émouvant et voilà, très chouette de voir aussi, de pouvoir rencontrer les personnes qui reviennent de mission et ça nous motive vraiment.
Eh oui,
pour
ça
partir.
Vous booste, ouais, comme on
exactement.
Dit. Ouais. Geoffroy et Mélissande, un mot pour compléter sur cette formation ou le discernement?
C'est vrai que chez Enfants du Mékong aussi, on a une partie de formation très technique. Donc, comment utiliser nos logiciels de mission, parce qu'il y a tout le travail derrière. Donc, en fait, je pense que ça s'éloigne pas trop de celle des MEP. On a vraiment la partie comment vivre en Asie. Même si, vite parti sur le terrain, on a tendance à oublier ce qui s'est passé parce qu'en fait, c'est très, très intense. Une semaine, on ne peut pas tout retenir. Mais voilà, je pense que c'est aussi la semaine de formation. Elle nous permet de vraiment savoir où est-ce qu'on met les pieds, dans quelle association on met les pieds. Et même si on ne se rappelle pas de tous les petits détails, ça nous permet de vraiment comprendre et d'être sûr qu'on part avec l'association qui est en lien et en parallèle avec nos valeurs. Et après, une fois sur le terrain, c'est un peu à chacun de créer sa mission. Donc c'est indispensable, important, mais en soi, à la fin, c'est nous qui créons notre mission.
Et oui, c'est ça. Mélissande, vous avez ressenti aussi ce petit décalage?
Oui, effectivement. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on nous a enseignées, notamment le volontaire MEP est un serviteur inutile. Donc effectivement, on l'entend, on le re-entend tout au long de la semaine. Et effectivement, enfin, une fois arrivé sur le terrain, on peut, on est un petit peu, je vais dire, tout feu, tout flamme. On est beaucoup plus dans le savoir-faire que le savoir-être. Et effectivement, quand on se retrouve confronté à la réalité, eh bien, on remobilise justement ces informations, ces enseignements qu'on a eus et on se dit « Ah oui !» Donc ils avaient raison, on me l'avait dit. Donc effectivement, une formation très très riche, très intense. Voilà, on est sur le pont de 7h30 du matin jusqu'à 10h le soir.
Et oui, on disait qu'on ne comptait pas 16h.
Enfin ouais. Voilà, et même en formation justement, on est vraiment... c'est vraiment une semaine, on est en immersion totale avec les autres volontaires qui partent. On reste rue du Bac à Paris, on ne sort même pas en fait de l'antre des missions étrangères.
On n'a pas le temps de faire les boutiques dans le quartier.
Non, on n'a pas le temps de faire les boutiques. Donc on a l'impression de vivre une retraite en fait en plein Paris. Donc c'est assez incroyable et effectivement c'est vraiment, on est vraiment bien préparé. Voilà, même si on ne pense pas forcément à tout, une fois qu'on arrive sur le terrain, mais voilà, c'était une très belle formation.
Éléonore, je vous redonne la parole avant qu'on fasse une pause musicale.
Pardon.
Oui, on vous écoute.
Je pense que ce qu'on pourrait dire sur toutes ces associations, c'est qu'elles ont une très belle expérience du volontariat et de l'envoi de volontaires. Elles ont connu beaucoup de choses, beaucoup de situations auxquelles les volontaires ont été confrontés. Et elles essayent de nous préparer de la façon la plus globale possible en essayant de nous parler un petit peu de tout, autant de la culture, des difficultés, des joies, de la courbe de la mission, quelque chose dont on parle beaucoup au niveau des émotions, de ce qu'on va vivre. Et comme tous les autres ont dit, ça nous prépare et ça permet aux volontaires, futurs volontaires, de faire confiance. Et ça, c'est vraiment chouette parce que, comme je disais Geoffroy, on sait où on met les pieds et voilà, on sait qu'on va avoir des difficultés, des joies et des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et on sait qu'on a le soutien de l'association qui a l'expérience. Donc ça, c'est vrai que ça permet de partir un peu plus sereinement.
Et oui, c'est ça. Et j'imagine que pour les familles, c'est aussi rassurant. Allez, on va marquer une pause. Éléonore Loyer, Marine Auro, Mélissande Cellier, Grégoire Das. On écoute des milliers de rêves interprétés par Open.
J'ai vu la terre, j'ai vu la vie. Et deux enfants, apportez l'espérance, apportez l'espérance. Dans le regard d'un vieil ami, coulaient des larmes d'espérance, des larmes d'espérance. Une cathédrale sortir de terre, un oranger dans le désert. J'ai vu l'impossible. Des milliers de rêves, tout autour de la terre. J'ai vu des hommes se relever, j'ai vu des mains apaiser la souffrance, apaiser la souffrance. Dans un village, l'éternité, dans le silence, l'amour en abondance, l'amour en abondance. Une favela dansée de joie, un ancien retrouvé la foi. J'ai vu l'impossible. Des milliers de rêves, tout autour de la terre, change le monde, tout simplement. Des milliers de rêves, tout autour de la terre, change le monde, à pas de géant.
L'espérance ne déçoit pas.
Si mamie te cante pas, l'espérance ne défraude.
Give your hands to serve.
Et ton cœur pour aimer.
Des milliers
de rêves,
tout
autour de la terre, change le monde, tout simplement. Des milliers de rêves, tout autour de la terre, change le monde, à pas de géant.
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Cette émission Vivante Église est consacrée à la mission humanitaire. Nous sommes avec Éléonore Loyer, Marine Auro, Mélissande Cellier et Geoffroy Das. Ils sont partis 6 mois, 1 an ou 2 ans avec différentes associations, les missions étrangères de Paris, Fidesco, Enfants du Mékong, et ils ont mis leur talent au service des plus pauvres. Vous nous avez dit dans cette première partie d'émission que vous aviez une formation et que cette formation ne correspondait pas forcément à la mission qui vous avait été confiée. De ce fait, est-ce que vous avez eu besoin de développer d'autres compétences, de trouver de nouvelles postures, et comment ça s'est fait, Geoffroy?
Moi, je pense qu'il y avait 2 choses pour lesquelles j'étais le plus stressé, parce que j'aime bien gérer les choses, et donc c'était mon niveau de langue déjà, de 1.
Oui, parce qu'il fallait parler anglais.
Alors, anglais au minimum, ouais. Mais en fait, c'est vrai qu'en France, on ne le parle jamais, en tout cas professionnellement. Du coup, même en ayant eu des cours, on ne sait pas trop ce que ça va donner sur le terrain. Et donc, l'anglais, la première année, j'ai appris le Karen. J'ai eu la chance d'être vraiment, vraiment en immersion. et donc de pouvoir pousser le niveau de langue assez loin. Et ça, ça a été le plus grand cadeau, je pense, de la mission, parce que ça permet de se connecter aux gens, de comprendre les problèmes et de pouvoir vivre avec eux d'une manière beaucoup plus simple. Et sur la deuxième année, le thaï. Donc ça a été un grand défi au début, auquel je ne me sentais pas hyper capable au début, et qui en fait s'est bien passé. Et je pense que la deuxième compétence que j'ai gagnée, c'est de pouvoir m'amuser et jouer avec les enfants. C'était quelque chose que j'avais jamais fait au quotidien. Enfin, j'ai pas encore de petits cousins, de petits neveux. Je suis contrôleur de gestion, donc j'ai plus tendance à m'amuser avec des tableaux Excel que des enfants. Et donc, c'est vrai
pas
que
pas la même ambiance.
Voilà, exactement. Donc, d'être au quotidien avec les enfants, d'être au quotidien avec le sourire des enfants, en fait, ça nous apprend vraiment à vivre avec eux. Et même avec la barrière de la langue au début, et même si ça se facilite un peu avec le temps, en fait, de pouvoir jouer avec eux, de pouvoir organiser des jeux, de pouvoir mettre en place des activités pour pouvoir leur donner un peu plus le sourire, ça, c'est vraiment deux compétences que j'ai acquises pendant ma mission.
Mmh. Mélissande, c'est lié ?
Oui, c'est vrai qu'en mission, les compétences, elles fleurissent, en fait. Enfin, pour ma part, ça a été l'adaptabilité. On arrive dans une culture qui n'a absolument mais aucun point en commun avec la nôtre. Donc, on doit vraiment faire preuve d'adaptabilité, persévérer dans l'apprentissage de la culture, de la langue. Donc, comme Geoffroy, moi, j'ai dû me mettre un petit peu au Khmer.
Facile ou pas ?
C'est un beau défi. Enfin, voilà, c'est une langue qu'on peut apprendre de manière orale. Après, l'écrit, c'est faut rester un peu quand même dans le pays, parce que c'est un alphabet qui n'a rien à voir avec le nôtre. Faire preuve d'initiative, d'organisation. Enfin, moi, j'ai eu des cours à préparer.
Ah oui.
Donc, des cours d'anglais à faire. Donc effectivement, on apprend... on a déjà des compétences de base, mais en fait, il y en a plein en fait qui arrivent au cours de la mission, donc c'est vraiment très chouette.
Vous, Marine Auraud, donc vous êtes psychomotricienne, vous avez été en mission avec cette même casquette, mais il y a quand même des choses que vous avez dû mettre en place.
Oui, totalement. J'ai dû faire preuve aussi d'adaptabilité parce que sur place, forcément, les moyens matériels n'étaient pas forcément hyper développés, en tout cas pas les mêmes qu'en France. Et puis même la gestion d'un enfant autiste en fait n'est pas du tout la même sur place, là où en France en fait obligatoirement il y a un diagnostic qui est posé avec des médecins etc qui encadrent, qui coordonnent les soins. Sur place il n'y avait pas du tout de médecin, il y avait seulement un kinésithérapeute qui était encore en formation sur toute l'école et sur 100 teachers, et sinon en fait les autres teachers n'étaient pas du tout dans le milieu, quoi. Ils apprenaient sur le tas. Après, Mani, donc, qui est la directrice de l'école, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, s'est formée un petit peu à la psychologie et en formation. Donc elle formait un petit peu toute l'école. Mais c'est vrai que du coup, les moyens étaient très différents. Et donc moi, j'ai eu un petit peu ce rôle de formation aussi, au fur et à mesure, quand je me sentais prête. Parce que ils sont beaucoup, donc c'est vrai que puis j'ai dû m'adapter au niveau de la langue aussi, Mais c'est vrai que les moyens matériels et la formation, c'était les gros défis, je pense, sur place.
Éléonore Loyer, sur ces questions d'adaptabilité, de nouvelles compétences ou de nouvelles postures que vous avez dû mettre en place, est-ce que vous partagez cet avis ou est-ce que vous avez autre chose à rajouter ?
Je rejoins ce que les autres ont dit et je résumerai un petit peu en disant que c'est vrai que dans toute mission, il y a vraiment une phase d'observation. Chez Fidesco, ça nous l'était vraiment demandé parce que sur une mission de 2 ans, c'était quasiment obligatoire, entre guillemets, d'avoir 6 mois d'observation. Et ça nous permettait de comprendre et d'avoir cette période sur plusieurs mois où on appréhende la culture, on appréhende la langue. Et c'est un peu... Donc, quand on a une mission de 6 mois ou de 1 an, ça va plus vite. Il y a quand même cette période d'observation ou de comprendre, en fait, pourquoi est-ce que il y a des choses qui sont différentes de ce que j'ai l'habitude de vivre. Et donc, je rejoins les autres sur le développement des compétences perso Et on est aussi souvent envoyé pour nos compétences professionnelles. Et donc, c'est, l'alliance des deux est très belle.
Alors, puisque vous parlez de l'adaptabilité, le fait de devoir apprendre une langue étrangère, on imagine qu'il y a eu quand même d'autres difficultés dans votre mission. Éléonore, est-ce que vous pourriez nous partager quelles ont été les plus grandes difficultés pour votre mari, Paul Armand, et pour vous ?
Moi, je dirais que les difficultés dans toutes les missions, c'est jamais là où on les attend. Ça nous est un petit peu dit avant, mais moi, pour Fidesco, ma difficulté, ça a été avec ma binôme la première année. Alors que je suis quelqu'un qui plutôt s'entend bien avec tout le monde, je m'attendais pas du tout à avoir cette difficulté d'amitié, de relation avec ma colocataire qui était vraiment, en plus d'être ma coloc, ma partenaire de travail, on partageait beaucoup de choses ensemble. Donc ça a été assez difficile. Et la deuxième année, c'était plutôt au niveau du rythme que c'était difficile, puisqu'on avait une grande liberté dans nos actions. Et donc, on a dû se mettre en mouvement nous-mêmes, trouver de la motivation pour mettre en place des actions. Donc, c'était cette différence un petit peu que j'avais avec ma première mission, où c'était beaucoup plus rythmé avec un travail, comme les autres ont pu raconter, de 7h à 10h le soir, etc. Voilà, là, c'était plus ça. Et puis aussi, au Timor, les conditions de vie étaient un peu plus un peu moins faciles. La chaleur était moins supportable. Et donc, c'est quand même des difficultés desquelles on apprend beaucoup de choses sur soi-même. Donc,
c'est ça. Vous dites que parfois, il fallait trouver la motivation, il fallait se mettre en mouvement. Qu'est-ce qui vous a aidé à justement être proactif ?
Le fait d'être à deux, ça nous a quand même bien aidé. Y a souvent, c'est décrit dans les couples, que ce soit dans la vie en France ou dans la vie en mission, où c'est un petit peu exacerbé. Quand un est un petit peu dans le dur, traverse une période un peu plus difficile, souvent c'est le moment où l'autre est plus actif et plus à même de motiver son époux ou son épouse. Et nous, ça s'est vraiment vérifié. Il y a des moments où on avait besoin de vacances tous les deux, c'est sûr, mais dans les moments du quotidien, c'est vraiment l'autre qui nous pousse et qui nous dit « Allez, viens, là maintenant, on a décidé qu'on allait faire ça. » Voilà. Et après, c'est aussi le fait de partager nos différentes compétences dans le travail, de se partager le travail. Ça nous a aidé à avoir chacun notre domaine et à exercer seulement notre domaine et moins les choses qui étaient plus difficiles pour nous.
Oui, c'est ça. Geoffroy Das, dans les difficultés
Je vais pas être très original, mais elle a raison. C'est surtout dans le quotidien, en fait, et dans les choses qu'on n'attend pas forcément. Moi, la première année, tout s'est plutôt bien passé. Mais ce qui a été le plus compliqué, en fait, c'est... comme on n'a pas notre famille, comme on n'a pas nos amis, les personnes de la mission deviennent tout pour nous. J'avais la chance d'habiter dans un centre avec des bonnes sœurs, des enfants. Et typiquement, le jour où un enfant te fait la tronche, te fait la gueule pour des raisons, parce que tu lui as pris son téléphone ou parce qu'une sœur revient fatiguée de la montagne, quand tu n'es plus appuyé et quand tu ne peux plus t'appuyer sur les personnes de la mission... c'est des moments qui, je pense, peuvent être très durs parce que c'est les seules personnes qui sont tes amis au quotidien, c'est les seules personnes avec
qui... Et comment vous avez réussi à... réussi ou au moins essayé ?
On se brouille jamais extrêmement, ça revient très très vite après. Mais en fait, il faut s'adapter comme en France. Tout le monde peut se réveiller.
Donc c'est prendre du recul, exactement. C'est avaler son orgueil.
Et... Exactement, et en fait, comme on ne comprend pas la moitié des discussions sur le terrain, entre quand les gens se parlent entre eux, quand quelquefois les gens nous parlent, on manque énormément d'informations sur ce qui se passe au quotidien. Et en fait, ce manque d'informations nous crée un manque de compréhension globale, et donc quelque chose qui est très minime, une difficulté qui est très très minime, peut devenir une grosse difficulté, une grosse incompréhension, et peut nous faire passer une mauvaise journée parce que en fait on s'est pas compris, on lui avait donné rendez-vous à 10h20 ici, mais il arrive à 2h après et en fait parce qu'on s'est pas compris, et donc ça peut créer des difficultés. Et je pense pour terminer rapidement sur ma deuxième mission et sur la mission globale, je pense que c'est surtout le rythme, se lever à 5h30 tous les jours.
Oui, donc c'est fatigant.
Oui, voilà, c'est ça. Je crois que sur la deuxième mission, j'ai plus de 50 jours cumulés de bus de nuit. Donc, ça fatigue un peu.
Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, avec le climat, quand même, comme disait Éléonore, qui n'est pas forcément évident. Mélissande et Marine, vous voulez partager sur certaines difficultés avant qu'on parle des joies ?
Alors moi, ma principale difficulté, ça a été la solitude. Voilà, parce que du coup, donc, j'ai été envoyée donc, dans cette ville rurale de 40 000 habitants, donc ça paraît quand même assez gros.
Oui.
Et en fait, il n'y a pas un seul étranger. Donc voilà, un isolement culturel en fait hyper fort. On a beau être entouré par... voilà, moi j'avais les jeunes, j'avais les enfants de l'école maternelle. Donc voilà, on a beau être très entouré, en fait, on reste très seul. Et effectivement, donc, comme le disaient les autres, il y a vraiment le défi de la communication. En fait, les Khmers, là où j'étais, en fait, ne parlent pas ou très peu anglais. Donc en fait, c'est des dialogues qui sont très, 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 très limités, à part demander comment ça va ou voilà.
Et puis c'est du quotidien, quoi, c'est des échanges.
Effectivement, donc en fait, c'est... Du coup, on ne partage rien, en fait. Ça a créé des situations qui n'étaient pas très agréables où, voilà, j'arrivais, j'étais à table avec mes jeunes, en fait, on me demande si ça va, et puis point barre, en fait. Et voilà, et puis, en fait, c'est une culture qui est tellement différente en Asie. On n'a pas forcément la même culture de l'accueil, ou voilà, ils sont quand même beaucoup plus sur la réserve. Ils ont une forme de pudeur, en fait, en Asie. Donc, en fait, c'est très difficile de réussir à s'intégrer. C'est un vrai défi. Et la communication aussi, c'est un vrai défi.
Ah, c'est un vrai défi. Oui. Je vois que le temps tourne, Marine, pardon. Je vous donne la parole plutôt sur les joies, parce que voilà, il y a quand même, on imagine, beaucoup de choses que vous avez reçues à travers vos missions respectives. Est-ce que vous voulez nous en faire part?
Oui, mes principales joies, c'était découvrir la culture locale, autant sur la nourriture que sur les paysages. On a eu un petit peu l'occasion de visiter le pays pendant notamment les fêtes, pendant le Khmer New Year, ils appellent ça, c'est leur nouvelle année. Il y a une semaine qui est banalisée, et donc on a pu découvrir notamment le Mondol Kiri, qui est un peu une région particulière du Cambodge, assez vallonnée, vraiment une campagne à perte de vue. Et donc, on a pu visiter une église là-bas aussi, gérée par un prêtre qui nous a fait des petits tours, etc. Découvrir les Bunang, qui s'appellent. C'est une communauté qui vit là-bas. Donc, c'était très chouette. Donc, la découverte du pays, de la langue, même si ce n'est pas facile, de la nourriture locale, parce que tous les midis et tous les soirs... moi, le soir, je dînais avec un foyer d'étudiants sur place. Et donc, je cuisinais parfois avec eux, ils me faisaient découvrir toute la nourriture. Et voilà, ça, c'est mes principales joies. Et le joie du quotidien aussi, d'appartenir à une communauté, comme je dormais au même endroit que l'église, juste à côté de l'église. J'avais vraiment on revoyait tout le temps les mêmes personnes, on faisait vraiment part de cette communauté. Et au bout de 6 mois, on se sentait vraiment... c'était ça qui était
appartenir à une même famille, finalement.
Exactement.
Ouais, ouais. Et malgré cette barrière de la langue.
Ah ouais, et puis même, j'avais un prêtre MEP qui était aussi sur place. Et c'est vrai que du coup, on a beaucoup échangé, qui était français. Donc, on a pas mal échangé avec lui aussi sur la foi. Il nous a beaucoup aidés quand c'était plus difficile aussi. Il a fait le lien entre les Khmer et nous. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance sur justement cette communauté.
Oui, c'est vrai. Par rapport à Mélissande et Geoffroy qui étaient un peu tout seuls, on imagine qu'effectivement, vous avez été privilégiés. Éléonore, des joies dont vous voulez faire part?
Je dirais une très belle joie que je retiens, c'est le fait d'être dans le moment présent, d'avoir plus cette grande to-do list qu'on peut avoir en France, ces gens à voir partout, d'être complètement inscrit dans notre mission et de profiter du moment présent, de chaque instant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que tout le monde retrouve dans sa mission et retient en retour.
Oui, c'est ça, parce qu'après, il faut garder le bénéfice de la mission.
Tout à fait. Hein? Oui, c'est pas facile parfois. Et c'est beau de relire sa mission. C'est un petit peu ce qui nous est demandé aussi avec nos différentes assos. De faire une relecture, de voilà aussi voir les choses qui sont difficiles, voir les choses qui étaient plus belles et qu'est-ce qu'on en retient et comment est-ce qu'on va grandir.
Geoffroy Das.
Moi, je voulais juste rebondir sur tout ça et en fait, tout le monde a raison. Et une fois passé cette période de la solitude, une fois passé cette période de la barrière de la langue, pour ceux qui ont la chance de rester un peu plus longtemps, c'est sûr, ça aide. Mais en fait, cette proximité avec les gens et ce sentiment de famille unie. Moi, j'ai eu la chance la première année d'être dans un centre, la deuxième année d'être dans une école de réfugiés birman. Et en fait, je me suis quand même senti hyper accepté. Et une fois la barrière de la langue vraiment, vraiment passée, de me faire des vrais amis. Et on me demande souvent pourquoi la France ne me manquait pas. Mais en fait, c'est parce que j'avais des amis sur place, des gens vraiment avec qui passer mon quotidien, avec qui rigoler, avec qui on n'est pas sur des débats politiques et on n'est pas sur des discussions très pointues souvent, mais c'est vraiment une famille, des gens avec qui j'ai encore un contact aujourd'hui, un ou deux ans après, et des enfants qui sont maintenant étudiants et qui nous appellent de temps en temps. Et, c'est vraiment des gens qui comptent pour moi
et auxquels vous êtes attaché.
J'ai l'impression que c'est réciproque aussi, donc ça fait vraiment chaud au cœur.
Ouais, c'est
une
beau.
Belle joie.
Mélissande, on termine avec vous. Mélissande Sellier, une dernière joie à partager sur cette mission.
Une dernière joie, c'est la découverte des joies très simples, en fait. Ça va être un sourire. Un jeune qui parle pas beaucoup, avec qui j'ai aucune relation, en fait, qui va commencer à me sourire. Ça va être des progrès en anglais. Je m'occupais notamment d'une jeune, à qui je donnais des cours d'anglais tous les jours. Et quand je suis arrivée, je dis pas qu'elle a progressé de manière
exponentielle,
mais petit à petit,
vous avez
j'ai vu quand même des progrès. De la complicité, effectivement, comme disait Geoffroy, de se sentir, d'appartenir à ce petit groupe de jeunes qui, de base, ça a été compliqué au début, et puis à la fin, c'était vraiment, vraiment très, très chouette. Donc, effectivement, c'est des petites joies simples, mais qui peuvent illuminer une journée. Et ça, c'est incroyable.
En tout cas, on devine que ces joies simples et cet attachement aux joies du quotidien, c'est quelque chose que vous gardez. Merci beaucoup, Éléonore Loyer. Vous remercierez aussi votre mari, Paul Armand, qui a préparé cette émission avec vous. Marie Noro, Mélissande Sellier et Geoffroy Das, vous nous avez partagé votre expérience lors de vos missions humanitaires respectives. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Merci beaucoup.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.